Et pour parler de ce qui se passe dans la NFL, nous accueillons maintenant Bruno Eppel. Bonsoir, Bruno.
Salut, Mario.
Juste avant de revenir sur les matchs qui ont retenu notre attention, des grosses nouvelles quand même. On ne met pas Eli Manning de côté comme ça, sans conséquence, chez les Giants de New York. À preuve, le directeur général, Jerry Reese, de même que le coach McAdoo, perdent leur emploi aujourd'hui, tous les deux.
Ben bon. Moi, c'est la phrase que je vais vous dire aujourd'hui. Ben bon. Honnêtement, lorsqu'on a vu, puis tu sais, de toute façon, ils étaient sur du temps emprunté, ces deux bonhommes-là. Là, on savait tous qu'ils étaient pour perdre leur job le 1er janvier, à la minute que la saison était pour être terminée. On était pour annoncer leur congédiement. Mais là, ils ont comme, ils ont mis ça en fast-forward en mettant Eli Manning, un icône, un gars qui a gagné deux Super Bowls sur le banc, supposément pour évaluer un gars qui s'appelle Geno Smith, que tout le monde avait évalué. Hein, j'espère qu'il avait eu le temps de l'évaluer. Il était de l'autre bord de la rue avec les Jets pendant plusieurs années.
En plus, oui.
Et tout le monde savait que Geno Smith, c'était exactement ce qu'on a vu hier, un mauvais corps arrière. Tu sais, il affrontait une des pires défenses, celle des Raiders, là, contre la passe hier, puis il n'a pas été foutu de faire grand-chose. Là, il a été mauvais, il faut le dire. Il a été victime de deux revirements. C'est ça, Geno Smith, tout le monde le savait. Donc, ça aura coûté le job à Ben McAdoo et Reese, mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, on n'avait pas de vision, on avait perdu ce vestiaire-là du côté de l'entraîneur-chef. Le GM a massacré l'équipe dans les dernières années, et puis là, regarde, il y a beaucoup de travail qui attend les Giants, et j'ai hâte de voir si on va, du côté d'Eli Manning, pardonner l'organisation. Et on va voir ce qui va suivre là, dans les prochaines semaines.
Parce que lui a laissé savoir son intention qu'il va jouer au football en 2018. Est-ce que ce sera avec les Giants ou ailleurs? Puis je sais pas, qu'est-ce que tu penses de son niveau de jeu? Qu'est-ce qu'il est encore capable de faire dans la NFL comme quart partant?
Écoute, tu peux pas juger Eli Manning sur cette saison. Il y avait pas de porteur de ballon dans le champ arrière. Il avait le nez à l'attaque qui était poreuse, décimée par les blessures. On a perdu un paquet de joueurs au niveau des receveurs de passe. On n'avait pas de joueurs étoiles. Tu sais, c'est une équipe qui avait pas d'âme parce qu'ils croyaient pas dans leur entraîneur-chef. Tu sais, tout ça met ensemble. Moi, je jugerais pas Eli Manning sur sa saison de cette année. Puis de toute façon, si tu te mets à regarder les statistiques, ça se compare un petit peu aux statistiques de l'an passé alors qu'il y a eu une bien meilleure fiche. Tu sais, non, définitivement, si Eli Manning veut jouer, je suis sûr qu'il va trouver preneur. Maintenant, j'ai hâte de voir si le propriétaire et l'organisation des Giants vont être capables de le convaincre et de se faire pardonner en bout de ligne parce que c'est pas correct ce qu'ils ont fait hier.
Suspension d'un match à Gronkowski qui n'est pas allé avec le dos de la main morte, prendre pas l'employé, une vieille expression, c'est comme, écoute, pour moi, il s'est cru à la lutte pendant un moment, lui-là. Là.
Non, c'est un geste disgracieux, et peu importe qui pose un geste comme ça, tu dois le suspendre, et il l'a dit, il était le premier à s'excuser, là, même si c'était une demi-excuse, parce que tu sais, il dit, ouais, mais j'étais frustré, parce que les arbitres, il m'appelle des pénalités pour toutes sortes de niaiseries, puis là, il dit c'était une pénalité évidente qui aurait dû être appelée sur moi, puis il n'y avait pas de flag, puis il n'y avait pas de mouchoir, puis il dit il y avait beaucoup de rage et de frustration du moment qui a sorti d'un coup, mais là, ça a sorti pas à peu près, là. Il a plongé avec un coup d'avant-bras sur le joueur. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. C'était disgracieux, c'était laid. Je pense qu'il est le premier à le reconnaître, puis c'est bien, bien correct qu'il soit suspendu un match et évidemment, mais à l'amende, pas de l'argent avec ça. Là.
Peut-être un peu chanceux, même seulement un match. Les Patriots qui ont lessivé les Bills par la marque de 23-3, c'était pas le match le plus enlevant du week-end. D'ailleurs, si je te demandais quel a été le match le plus divertissant pour toi pendant la fin de semaine, il y en a eu un surprenant. Tiens, on va commencer de même, les Eagles. Ben, je sais pas s'il faut être surpris, parce que les Seahawks demeurent une excellente équipe. Ils l'ont prouvé hier contre Philadelphie. C'est vrai qu'ils jouent à la maison, là.
Ouais, écoute, c'était ça le plus gros défi. Je pense pas que ça aurait été la même histoire si on avait joué à Philadelphie ce match-là, mais tu sais, on s'est rendu compte là que les Seahawks chez eux, le bruit de la foule, première des choses, moi j'ai hâte de voir comment Carson Wentz allait gérer cette atmosphère qui est très unique à Seattle. C'est pas évident de jouer là quand t'es en attaque, de te faire comprendre, de rester concentré, puis il a passé pour plus de 300 verges, le jeune, là, lorsqu'on est arrivé près de la zone début, les Eagles et l'attaque de Carson Wentz ont fait des erreurs qui leur ont coûté des points. Carson Wentz a échappé le ballon en ligne de 1, entre autres, puis ça a coûté le match carrément, parce qu'on a joué suffisamment bien pour gagner, mais manqué d'opportunisme, alors que du côté des Seahawks, on a profité de chacune de nos chances, tel un vétéran, Russell Wilson, lorsqu'il s'approchait de la zone début, on marquait des touchés, puis on sortait de là avec des points, et c'est ce qui a fait la différence. Mais j'étais impressionné par les Seahawks défensivement, parce qu'il leur manquait un paquet de bons joueurs, dont Cam Chancellor et Richard Sherman. Là, c'est pas rien, puis ça n'a pas vraiment paru face à une attaque aérienne qui est quand même assez dangereuse. Fait que non, c'est un gros match que les Seahawks avaient besoin de gagner. Là, avec cette victoire-là, ils sont maintenant cinquièmes dans la section, dans la conférence nationale. Et regarde, c'est une grosse victoire pour eux. Puis pour les Eagles, ben, regarde, ce qui a échappé ça à Seattle, c'est pas la fin du monde.
Grosse victoire également pour les Vikings. Une 10e contre 2 défaites seulement cette année. 14 points ont été suffisants contre les Falcons d'Atlanta.
Écoute, ça a été un match en deux temps là, pour l'attaque de Case Keenum des Vikings qui a rien fait de bon, qui s'est fait presser en première demi face à la défense des Falcons. Et là, on est revenu en deuxième demi et Case Keenum a été parfait. Il a été excellent. Il a mené son équipe à juste suffisamment de points pour aller chercher une grosse victoire. Là. Parce que les Falcons, il ne faut pas l'oublier, ils étaient sur une séquence de 3 victoires consécutives. Il y avait le vent dans les voiles. Leur attaque était plus dynamique que jamais. Et défensivement, les Vikings ont prouvé là, qu'ils sont capables d'arrêter n'importe quelle attaque hier. Ils sont allés sur la route à Atlanta arrêter une des meilleures attaques de la Ligue. Puis ils en ont fait suffisamment avec Case Keenum, encore une fois. Là, lui, il nous impressionne. Parce que je peux te dire, quand j'ai vu que c'était lui qui prenait les rênes de l'attaque après la blessure à Sam Bradford, j'ai dit, bon, ben, la saison des Vikings est finie. Et il m'a fait mentir, puis je pense qu'il en a fait mentir plusieurs.
Je suis un peu déçu, par ailleurs, Bruno, de la tournure de la saison des Chiefs de Kansas City. Eux autres, quel départ, quel début de saison ils ont connu. Puis en même temps, ben ravi de voir les Saints de la Nouvelle-Orléans enregistrer une 9e victoire contre seulement 3 défaites. Je sais pas si t'es voyant dans le portrait cette année, les Saints. Là, mais...
Ben les Saints ont commencé avec 0-2, puis après ça, ça a été une séquence de 8 victoires. On est revenu avec une défaite contre les Rams à LA la semaine passée. Mais non, c'est good. Les Saints sont dans le portrait, on les voit... Parce que c'est une équipe qui a bien progressé, qui a corrigé ses lacunes défensivement. Puis honnêtement, là, en attaque, c'est l'équipe la plus équilibrée de la NFL avec les Eagles. Oh. Le duo de porteurs de ballon qu'il y a là avec Ingram et Kamara, la recrue qui va sûrement être recrue de l'année, là, c'est solide. Puis tu sais, t'as Drew Brees au poste de carrière qui a vraiment, mais vraiment pas tout sur les épaules. Là. C'est pas lui qui a gagné le match hier. C'est encore une fois une solide défensive. Et de l'attaque au sol dynamique, puis Drew Brees qui en fait juste assez. Puis ça, c'est l'histoire, puis c'est la recette des Saints cette année. Et plus ça avance, plus je peux te dire que c'est le genre de recette qui risque de fonctionner en éliminatoire.
Puis en conclusion, les Steelers, qui ce soir pourraient devenir la 3e équipe à atteindre le plateau des 10 victoires contre les Bengals. Eux autres, s'ils ne gagnent pas, ça va sentir...
Ah, ça va devenir complexe. Là, ils vont tomber à 5-7, je crois, s'ils l'échappent. Exact, c'est un gros match pour les Bengals qui, après un très mauvais début de saison... ont un regain de vie, mais j'ai l'impression qu'ils vont revenir à la réalité face aux Steelers ce soir. Moi, c'est ma prédiction, en tout cas.
Ben Bruno, sur ça, je te remercie beaucoup. Bon match ce soir, je regarde ça avec vous autres.
OK, salut tout le monde, bye-bye.
Un gros merci. Dans un instant, retour sur la journée du Canadien de Montréal avec Martin McGuire, qui était bien sûr au complexe d'entraînement de l'équipe à Brossard plus tôt aujourd'hui.